Vous écoutez
RMC. RMC, l'afterfoot.
Jean-Louis Tour.
Avec Daniel Riolo, Kevin Diaz et notre spécial Naïsna qui continue avec François Manardo, ancien chef de presse des Bleus et le producteur du doc Netflix, coproducteur Stéphane Kamga qui est avec nous sur RMC donc dans l'after. Alors on a beaucoup parlé de l'épisode des insultes à la mi-temps de France-Mexique en 2010. Allons sur la suite donc et ce qui va amener à cet emballement médiatique complètement fou. Donc il y a la une de l'équipe. Et le lendemain, il y a donc ce fameux entraînement ouvert au public. Ça d'ailleurs, moi, j'avais oublié que tout était fermé et que c'était le seul entraînement ouvert au public.
Non, alors non.
Bah, c'est dans le doc, ça.
Oui, mais c'est Sébastien Tarrago qui a des problèmes de mémoire, lui aussi.
Bah, tout le monde a des problèmes de mémoire,
mais
François.
Oui, mais tu sais,
ça pose des problèmes, ça, quand même.
Mais oui, ça, bon, quelques petits problèmes. C'est-à-dire que tout n'était pas fermé. Je ne vais pas refaire l'histoire parce que c'est trop long ici. Nous, l'équipe de France, la fédération s'est faite avoir, pour rester poli, par le directeur de l'hôtel où nous logions. Nous avions payé l'exclusivité de l'hôtel, d'avoir l'hôtel réservé que pour l'équipe de France.
Très belle hôtel.
Et on se fait avoir parce que le terrain d'entraînement qui est le nôtre n'est pas censé être celui-là. On doit l'utiliser que pour les huis clos. Il y a des travaux à prévoir parce que c'est un terrain de cricket au départ. Les travaux sont exécutés, mais mal exécutés, et ils ne rencontrent pas les normes de sécurité pour accueillir du public. On ne peut accueillir que les médias. Tous les entraînements sont ouverts, comme pour les 32 sélections en Coupe du Monde, 48 dans quelques jours, c'est-à-dire qu'on laisse un quart d'heure ouvert à la presse. Tous les entraînements, on en fait un ou deux à huis clos. Huis clos, c'est complètement fermé. Pour les gens qui connaissent pas trop bien le jargon logistique, média et football. Et cet entraînement du 20 juin, alors ça c'est vraiment le hasard ou une leçon divine, c'est que on a une dérogation, c'est la deuxième fois seulement qu'on obtient une dérogation pour pouvoir accueillir du public sans que ces normes de sécurité soient respectées. Mmh. Les joueurs ne le savent pas. Ils ont prévu de faire la grève,
oui,
mais de pas venir sur le site d'entraînement. Quand ils apprennent, et ça c'est dans le documentaire de Nico,
ça qui est fou,
Anelka, quand ils apprennent qu'il y a du public, ils disent non mais on va pas snobber, c'est que la deuxième fois qu'il y a des gens,
on
en plus ce jour-là, on est en plein hiver en Afrique du Sud, à Naïsna, c'est comme si on était en Bretagne. Il y a un grand soleil, ils disent non, on va pas paraître en plus pour des gens qui snoberont les gens de la ville, on vient, on signe les autographes, et puis on se casse. Mais tout était ouvert un quart d'heure à la presse, mais on ne pouvait pas accueillir du public. Ça, et on aurait bien voulu, crois-moi.
C'est bien expliqué ça.
Et alors, ce qui est bien expliqué aussi, c'est qu'à ce moment-là, c'est l'essor aussi des chaînes d'infos en continu, oui, et que tout se passe en direct pour tout le monde. Les différentes étapes, les joueurs qui sortent en basket, qui décident de ne pas s'entraîner, Robert Duverne qui s'embrouille, le préparateur physique avec Patrice Evra, les joueurs qui font grève, Jean-Louis Valentin, qui était son poste déjà,
qui démissionne.
Après la montée du faux plat, là, un peu essoufflé au moment d'annoncer sa démission.
Il y a qui ont dit mais c'est vous la taupe, monsieur Valentin.
Exactement, il y a la question
non,
à la fin.
Certainement pas.
Parce qu'à ce moment-là, on est dans le contexte de chercher la taupe. Hein. Il y a déjà eu Patrice Evra qui.
Mais t'oublies le téléfoot, on n'en parle pas du téléfoot parce que c'est avant l'entraînement.
Pardon, je fais pas ton boulot à ta place. Désolé.
Oh bah si, tiens, allons-y. C'est le matin, le téléfoot.
C'est ça,
c'est le matin.
C'est parce qu'on est dimanche.
Voilà, Franck Ribéry qui
s'invite. Et revoir la scène, ça fait quelque chose parce qu'on en a énormément en parler, évidemment, de ce téléfoot qui avait scotché tout le monde avec l'intervention de Ribéry pas prévue, avec David Astorga, qui est très bon d'ailleurs, David Astorga, ouais, à ce moment-là, la présentation de téléfoot, ouais, quand Ribéry arrive. Et je vais vous dire, c'est marrant parce que à l'époque, dans le contexte, j'avais trouvé Ribéry.
Je ne sais pas ce que tu vas dire, mais je suis d'accord.
Mais complètement à la ramasse et tout. Mais en fait, revoir le moment, je vois un homme qui est pas bien, qui est perdu. Mais je le trouve finalement troublant de sincérité.
Oui, mais Daniel, pourquoi vous avez cette vision différente? Parce qu'on s'est mis dans la tête que les joueurs vivaient une injustice parce que les mots mis en une ne sont pas les mots prononcés. Et ça, il nous a fallu des années pour intégrer ça. À l'époque,
oui, mais attention, parce qu'on va venir. Attention, on va venir dans un instant sur la grève. Moi, tout ce qui s'est passé et la grève et la façon dont les Bleus n'ont finalement pas senti qu'ils étaient là pour l'équipe de France, ça, moi, je continuerai de leur en vouloir tout le temps.
Oui, non, mais d'accord, Daniel.
Ça, c'était inadmissible.
Ça, tu as raison.
Mais maintenant, avec le recul, la sincérité de Ribéry à ce moment-là, moi maintenant, quand je le revois là, moi, elle me touche.
En revanche,
alors qu'à l'époque, elle nous mettait en colère. À l'époque, elle nous mettait en colère. Il faut dire la vérité.
T'as raison, Daniel.
À l'époque, dans le tourbillon de l'époque, on était en la France entière était en colère. Aujourd'hui, je suis, voilà.
Ils n'ont pas parlé tout de suite après parce qu'ils ont bien vu qu'ils étaient dans un tourbillon où ils devaient quitter le pays parce que ils n'étaient pas audibles. Mais il y a quand même quelque chose. C'est que, comme dans toutes les catastrophes, en fait, dans cette catastrophe, c'est une succession d'événements de mauvaise communication qui en fait, qui fait les protagonistes à prendre les pires décisions. Mais c'est pas juste les mecs qui se sont réveillés un matin parce que c'est des caïds immatures et qu'ils ont décidé de faire la grève ou de faire des choses qui leur ont... une succession et la grève et Ribéry qui est plein de sincérité, qui est au bord des larmes. Et d'ailleurs, même Patrice Evra te dit qu'après, il a pleuré auprès de ses coéquipiers.
Attends, je voudrais juste, Kevin, puisqu'on est sur Ribéry à Téléfoot, un petit extrait où l'histoire d'amour Domenech, Manardo et Omax.
Merci. Moi, j'étais du côté où je le voyais arriver. Et il discutait avec Manardo. Et Manardo le fait rentrer. Ça, c'est un attaché de presse. Le mec, il y a une bombe atomique qui arrive. Et qu'est-ce qu'il fait? Ben, il vous l'envoie, gentiment.
C'est ça, un attaché de presse?
C'est bon, ça. Non, mais ça, moi, je l'ai découvert aussi. Ben, comme disait Stéphane, on n'a rien su de ce que les autres avaient dit, avaient pu dire. Moi, je le découvre. Ben, ça m'a fait marrer parce que... Rétrospectivement, s'il avait vraiment s'il avait consulté les astres, il aurait su qu'il y avait une grève dans l'après-midi, je pense. Hein, ça lui aurait permis, au moins, l'astrologie.
Il s'en doutait, en tout cas.
Peut-être. Oui, non, mais là, il aurait carrément su. Ouais. Donc, si on sait qu'il y a la grève dans l'après-midi, effectivement, Franck, tu vas pas lui dire d'aller sur le plateau. Quand il arrive sur le plateau, personne n'est au courant de ce qui va se passer dans l'après-midi, à part les joueurs. Il y a eu quelques personnes à Paris aussi.
Permets-moi sur ce point, Domenech récemment a participé à une émission où je suis allé quelques semaines plus tard, là, qui s'appelle Offense, sur les réseaux, sur YouTube, et il donne une autre version, c'est dire s'il s'arrange vraiment avec la vérité. Et lui, il raconte à ce moment-là, je l'ai vu tout à l'heure, que le matin, au petit-déj, il avait déjà compris qu'il y aurait quelque chose. Il lâche même le mot de grève. Donc, il dit hop, et puis en fait, finalement, il s'y attendait le matin. Il dit, mais ils vont quand même pas me faire la grève, ces cons-là.
Je sais pas pour Offense, si on n'y était pas sur Offense, mais effectivement, nous, à chaque fois qu'il nous parle, il nous dit depuis que le matin, il sent quelque chose. Il sait pas quoi.
Il sait pas quoi, mais il se dit, ils vont le faire quelque chose.
Il sait pas quoi.
Mais quand Franck
arrive, il dit même qu'il va voir.
Quand Franck arrive, donc Franck, il fait. Mais Franck, il fallait pas l'empêcher d'y aller à Téléfoot. Mais une com maîtrisée,
Attends, je reconstitue quand même les faits. Et que les faits, Monsieur Tour, c'est que lorsque Franck débarque, il débarque sur le plateau. Le plateau, il n'est pas accessible quand tu rentres directement dans le club de golf de l'hôtel. C'est-à-dire qu'il arrive dans notre dos et il est au téléphone avec Jean-Pierre Bernès. Mmh. Donc moi, on me fait, c'est Sylvain Mignonat, TF1, qui me dit, il y a Franck Ribéry, il est là. Et il est là où? Ben, il est juste derrière toi. Et si moi, je le sors alors que Franck me dit, quand il raccroche avec Bernès, moi, je vais absolument m'excuser, j'en peux plus, c'est trop dur, ce qu'on a fait, on est nul depuis le départ. Donc moi, je trouve que l'intention est bonne. Je ne sais pas ce qui va se passer dans l'après-midi. Mais si tu veux aller t'excuser, vas-y.
Oui.
Je rajoute juste un détail aussi. Par contrat, et moi je suis aussi là pour faire respecter les contrats, on doit 2 joueurs à TF1 pour l'émission de Téléfoot. Par contrat, TF1 n'est pas que sponsor de l'équipe de France, il y a aussi un contrat éditorial. Et moi, j'appelle Noël Le Graët avant l'émission, et j'appelle aussi Jérôme Saporito, et j'ouvre très vite aussi la parenthèse, parce que c'est Jérôme Saporito qui a la paternité de ce documentaire, avant qu'il n'ait pas plus allé au bout et l'ait transmise à nos amis ici présents, avec Stéphane Kamga. Mais j'appelle Jérôme, qui est le directeur éditorial de la prod de TF1, en lui disant, Jérôme, il n'y aura pas de joueurs, on est dans des circonstances exceptionnelles. Et je dis à Noël Le Graët, qui est le trésorier à l'époque de la Fédé, président, c'est pas le président de la Fédé, mais on s'est compris. Lui qui s'occupe des contrats et c'est lui qui
faudra parler en sous-main de Bernès et Deschamps aussi.
Il y aura que le sélectionneur. Donc j'ai averti tout le monde. Quand Franck arrive, moi, il m'enlève une énorme épine du pied et je trouve qu'en plus le discours qu'il a envie de tenir, et moi, il est déjà larme aux yeux, Franck, quand il raccroche avec Bernès. J'ai dit, ok, vas-y. Donc Raymond, il a beau jeu de dire ça rétrospectivement. C'est une bombe. Oui, c'est une bombe si tu sais ce qui va se passer dans l'après-midi. Sauf que moi, j'ai pas de boule de cristal.
Alors, avant de basculer sur le communiqué, la fin de la grève, on a Kim qui patiente au 32-16 et qui veut discuter de ce Doc Naïsna avec nous sur RMC dans l'After. Salut Kim.
Salut Jean-Louis, bonjour à tous, bonsoir Salut. À tous.
Il t'a plu ce doc?
Ouais, il m'a plu. Désolé, j'ai un peu la voix cassée. Il m'a plu, il m'a fait penser d'abord à un truc, c'est le paradoxe un peu ce matin. C'est que moi, en 2006, j'ai 15 ans en fait, et je pleure la finale contre l'Italie. Et en fait, aujourd'hui, après avoir eu le doc, je me surprends limite à me dire qu'en fait, une victoire, ça aurait fait valider un fonctionnement toxique. Et en fait, c'est assez violent à admettre, mais je me suis dit qu'en fait, même si j'ai soutenu l'équipe de France toute ma vie, en fait, maintenant, avec le recul, je préfère en fait avoir perdu cette finale en 2006. Donc ça, c'est la première réflexion que je me suis faite après avoir vu le doc. La deuxième, c'est que moi, je vous écoute depuis toujours, et je me rappelle très bien que déjà, à l'époque, à l'after, on sentait que vous étiez parmi les seuls à vraiment raconter ce qui se passait en coulisses, et qu'on sentait qu'il y avait quelque chose qui allait arriver. Donc, bravo à vous pour ça déjà. Et ça m'a rappelé un peu ces belles années qu'on a vécues en 2008, avec toute l'équipe. Et la dernière chose, c'est que Domenech, pour moi, il jouait toujours le rôle du type détestable face aux médias, mais je pensais que c'était pour protéger son groupe. Et en fait, là, on se rend compte qu'en fait, c'est un mépris vis-à-vis de tout le monde, et notamment de ses propres joueurs. Et pour moi, ça change tout, parce que même si la mutinerie reste indéfendable, je pense que ces joueurs étaient complètement abandonnés par un management qui était complètement défaillant. Et moi, la question que je me pose maintenant, c'est comment ça se fait que Domenech continue à aujourd'hui être une voix médiatique dans le foot français après ça.
Une voix médiatique ou ça, tu peux rappeler où est-ce qu'il est une voix médiatique?
Justement, c'était la suite que je voulais donner. Et est-ce qu'on a vraiment tout compris à ce qui s'est passé autour de cette équipe, et notamment la taupe? Et tu auras compris, Daniel, que mes deux questions sont corrélées.
Alors, je sais pas, est-ce que quelqu'un veut rebondir à ce qu'a dit Kim?
C'est quoi la question?
Il n'y a pas vraiment de question. C'est un constat que fait Kim sur la suite pour Domenech. Et l'autre question, c'est est-ce qu'il devrait encore.
Ce qui est certain sur.
C'est quand même troublant que le seul média où il ait pu aller travailler, c'est l'équipe, qui soi-disant l'a mis dans la merde en 2010 en balançant cette une-là. Je sais pas.
De toute façon, moi ça je ne jugerai pas parce que je ne sais pas. Mais il y a une chose qui est sûre quand tu regardes le doc et puis quand tu as suivi l'équipe de France de toute cette période, c'est que Raymond Domenech, contrairement à Didier Deschamps, qui est quand même, on peut aimer ou pas aimer ses compos, mais c'est un grand manager, c'est un très bon sélectionneur. Raymond Domenech, Raymond Domenech, il a fait une finale de Coupe du Monde, comme le disait notre auditeur. Mais honnêtement, je suis désolé de le dire, mais il est nul en fait. Il est nul dans le management. Même 15 ans après, il n'a même pas l'auto-analyse nécessaire pour se dire ce qu'il aurait pu faire de mieux ou pas. Et c'est ça qui est quand même un peu triste.
Ce que je trouve fou dans le doc, c'est qu'il ne se met jamais à la place des joueurs. Il n'a empathie.
Il a du mépris pour les joueurs.
L'empathie, c'est la première qualité du manager.
C'est vrai que c'est une des choses sur lesquelles moi, personnellement, et c'est à titre personnel, j'ai été un peu surpris. C'est que nous, on l'a donné le strapontin pour pouvoir faire son mea culpa et donner ses regrets. Pourtant, nous, qu'on a échangé avant le doc, c'était l'une de ses envies de pouvoir donner sa part de vérité, mais aussi de pouvoir donner les regrets qu'il avait pu avoir par rapport à sa gestion. Il est clair, et je pense qu'il a établi qu'il y a eu une vraie défaillance de leadership, pas que de lui.
Président de la
Fédération. Pas que de lui, aussi, ça, hein. Le pauvre
Escalette, il est complètement dépassé.
C'était pas évident d'être dans cette situation. Il a pas forcément eu toutes les armes. C'est pas que j'essaie de le défendre, mais il a pas forcément eu toutes les armes quand il est parti dans cette conquête de cette Coupe du Monde. On lui dit clairement qu'il va pas être reconduit. Les joueurs ne sont pas vraiment d'adoupas à son idée, à sa stratégie. Je pense que c'est même de là que vient.
C'est quoi son idée? C'est la question aussi.
Justement, nous les joueurs, on dit qu'ils comprenaient pas forcément ce qu'ils voulaient comme schéma.
Il y avait toutes les incompréhensions, voire limite les disputes sur est-ce qu'on fait du marquage individuel ou marquage en zone sur les corners. Ils étaient d'accord sur rien, ni sur la tactique, ni sur rien. C'était pas l'entraîneur de cette équipe de France. Même en 2006, on le sait que ça ne l'était pas.
Alors, François, j'ai les séances. Non, rapidement, oui, à Clairefontaine, mais je leur racontais ça. J'ai assisté à des séances où les joueurs l'apostrophaient en disant coach, on comprend pas.
Ouais, c'est ça.
On comprend pas sur les coups de pied arrêtés principalement. On comprend pas ce que vous attendez de nous.
Alors, il y a encore des récupérations politiques quand même.
Et la réponse était démerdez-vous.
Oui. Kevin, ne t'inquiète pas.
Et il y a le fait que Bernat et Deschamps étaient au courant pour la grève. Hein.